L'EM. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion en direct à midi et rediffusée à 18h. Aujourd'hui, on a la joie de retrouver notre partenariat avec le Géoparc d'Armorique, le label UNESCO porté par le Parc Naturel Régional d'Armorique et qui valorise les richesses géologiques de notre territoire au sens très très large. Parmi ces richesses, il y a notamment celles qui nous emmènent vers un lointain passé, la préhistoire. En l'occurrence, il y a plus de 14 000 ans, du côté de Plougastel d'Aoulas. Le rocher dit de l'impératrice est toujours là. Les amatrices et amateurs d'escalade le connaissent, ou connaissent les environs en tout cas, mais aussi les archéologues. Alors, on avait réalisé un reportage sur place il y a quelques années avec l'archéologue Nicolas Nodino, et vous pouvez toujours écouter cette émission Ribine sur le site web de Radio Évasion. Avec nous aujourd'hui, il y a Noémie Courant, la chargée de mission du Géoparc d'Armorique, Marie-Morgane Abivin, qui est ingénieure en médiation à l'ENIB. Et par téléphone, il y a Violaine Offret, qui est médiatrice au musée de la fraise et du patrimoine de Plougastel. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
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 Alors, on va d'abord écouter un extrait de l'interview de Nicolas Nodino, justement, qui va nous parler du site du rocher de l'impératrice et du paysage de l'époque.
Bon, voilà, donc on est dans le forêt Kiréro et on est au pied de cette grande barre de grès armoricain, cette grande falaise hein, qu'on va retrouver depuis globalement la Roche Maurice jusqu'à la pointe de l'Armorique. Et qui a une formation assez similaire à celle qu'on va retrouver sur la presqu'île de Crozon, cette formation de grès armoricain. Tout au long de cette barre de grès armoricain, on va retrouver des petits abris sous roche de différentes tailles, comme celui-ci, qui sont des décrochements de blocs hein, qui, au fur et à mesure, ont créé une petite casquette, comme ça, un petit abri dans lequel les hommes ont potentiellement pu s'abriter. Alors on sait qu'ici, ils se sont abrités. Hein. Ils se sont abrités il y a longtemps, il y a environ 14 000 ans, 14 500 ans pour être plus précis. Donc environ 12 500 ans avant notre ère, avant Jésus-Christ. Ni pinèdes, ni feuillus à cette époque-là. Plutôt une grande steppe, donc un environnement très herbacé. Quelques pins, quelques buissons de genévrier, donc une végétation plutôt basse, de buissons hein, au milieu d'une grande steppe herbacée. Donc vraiment quelque chose de très différent. Un niveau de la mer qui a changé aussi énormément, la rade de Brest telle que vous la connaissez à l'heure actuelle, rien à voir, hein, plutôt une grande plaine parcourue par des grands cours d'eau, l'Aulne, les Lornes, la Canfroute, la Daoulas, toutes ces rivières du Fou et tant d'autres, toutes ces rivières qui devaient donc être beaucoup plus encaissées, qui devaient beaucoup plus creuser hein, ce milieu, et drainer tous ces cours d'eau vers la mer de l'époque, qui se trouvait à la hauteur de Ouessant à peu près. Hein. Il faut imaginer 80 à 100 mètres d'eau en moins durant cette époque. Donc vraiment, on est loin d'être sur la côte durant le paléolithique ici. Hein. Donc un milieu vraiment très très différent. Durant cette période-là, des gens sont venus s'installer sur ce site, sont venus se mettre à l'abri sous cette roche, sur un niveau de sol qu'on voit au fond, hein, ce niveau un peu jaune, hein, c'est à peu près le niveau de sol de l'époque. Donc vous voyez, par rapport au niveau de sol sur lequel vous êtes aujourd'hui, on a eu beaucoup de sédiments qui se sont accumulés au cours des siècles, au cours des millénaires, et qui ont permis de protéger les dépôts archéologiques. Si on n'avait pas eu de sédiments, ces pièces archéologiques, eh bien, elles auraient été emportées par l'eau, par l'érosion, par le ruissellement, et on n'aurait pas de site archéologique. On a un peu plus d'un mètre, de sédiments qui s'est déposé depuis l'installation asilienne. Donc voilà, l'asilien, j'en reviens. Donc on est sur un site préhistorique. La préhistoire va se diviser en trois grandes périodes. Le paléolithique, qui sont des gens qui sont des chasseurs, cueilleurs, nomades, hein, qui se déplacent de site en site, hein, et puis qui vont exploiter les ressources autour d'eux, qui sont des prédateurs, hein, en gros. Le mésolithique, où il se passe exactement la même chose, hein, globalement. Et le néolithique, où là on assiste à un énorme changement, qui est la sédentarisation des sociétés, le développement de l'élevage et le développement de l'agriculture. D'accord ? Donc nous, on se situe dans le paléolithique, et plus précisément dans ce qu'on appelle le paléolithique supérieur, qui est le moment où l'Homo sapiens va entrer en Europe et va se développer en Europe, entre 40 000 ans et 10 000 ans à peu près, entre moins 40 000 et moins 10 000. Nous, on se trouve donc à 14 500 ans avant le présent, c'est-à-dire entre deux grandes cultures préhistoriques, une qu'on appelle le Magdalénien, pour aller un peu vite, c'est Lascaux, ou les grands sites comme Pincevent dans le bassin parisien, et une autre culture qu'on appelle l'Asilien, qui est très différente, où on assiste à beaucoup de changements, avec des débitages, des façons de fabriquer les outils beaucoup plus simples que dans le Magdalénien, des choses très simples, très rapides. Et sur le plan artistique, la disparition totale de l'art figuratif sur les parois, tel qu'on peut le connaître à Lascaux, à Altamira, à Agno, etc., pour des gravures sur des petits galets avec des signes géométriques. Ça, c'est ce qui caractérise l'Asilien. Nous, ici, on va être à la transition entre ces deux moments. C'est ce qui fait l'intérêt de ce site. C'est que c'est un site qui va nous permettre de comprendre le basculement d'une tradition technique et artistique à une autre tradition technique et artistique.
Donc Nicolas Nodino, qui a dirigé les fouilles sous le rocher de l'impératrice, Et évidemment, parce que chez l'impératrice, nous avons trouvé des objets, enfin pas nous, mais eux. Alors je ne sais pas, Noémie ou Marie-Morgane, qui veut me décrire les objets qui ont été trouvés.
Oui, effectivement, on y a découvert une cinquantaine de fragments de schiste gravés, et dont certains de ces fragments, on peut très bien y observer dessus des faciès d'aurochs, des têtes d'aurochs, de chevaux, donc avec un détail en fait très naturaliste de ces pièces qui sont absolument magnifiques. Donc elles ont été découvertes lors des fouilles archéologiques qui ont débuté en fait sur le site de l'abri sous roche du rocher de l'Impératrice en 2013. Donc ça a été une découverte complètement incroyable, et qui depuis attire et a rendu un intérêt pour ce site-là. Il y a eu des visites guidées organisées par le musée pour connaître justement l'histoire de ces plaquettes, la datation de ces plaquettes, et puis globalement connaître, en savoir davantage sur la vie des préhistoriques. Autant ils y vivaient, enfin ils n'y habitaient pas, c'était un lieu de chasse, mais ça, c'est vraiment un sujet qui procure de la curiosité et de l'intérêt, quoi.
Et on le sait d'ailleurs que c'était un lieu de chasse, parce qu'on a trouvé beaucoup d'armes taillées, de silex.
Exactement, voilà, des outils lithiques en fait, des traces de lames, tout ce qui permet de retracer ce lieu de chasse, parce qu'il y a eu un certain nombre de groupes de préhistoriques qui y restaient quelques jours, qui repartaient, donc il y a vraiment un phénomène cyclique en fait derrière le lieu de ce site-là. Donc c'est vraiment grâce à ces témoins archéologiques, on a pu retracer une partie du site au temps des préhistoriques, c'est-à-dire à moins 14 000 ans à peu près, quoi.
Et après, il reste plein de questions. Pourquoi est-ce qu'ils ont laissé les œuvres d'art sur place ?
Ça, c'est la grande question. Ce sera toujours la grande question, ça, c'est sûr. Là, il y a pas mal d'hypothèses là-dessus, mais c'est la question.
Ça, c'est quoi les hypothèses ?
Il y en a beaucoup en termes d'hypothèses, parce qu'ils passaient pas leur temps non plus à graver ces plaques-là, donc c'est un retour de chasse. Il y a aussi des hypothèses beaucoup plus historiques ou symboliques sur le sujet. Je pense que là, Nicolas Nodino sera la personne à interroger là-dessus, mais voilà, c'est en termes d'hypothèses, c'est toujours un peu ces questions-là, de toute façon. Qui se pose.
Alors, en tout cas, on a le site, on a les objets, et c'est là, Marie-Morgane Abivin, que vous intervenez peut-être. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le CERV par rapport à l'ENIB, enfin, ce que vous faites déjà?
Et alors, l'ENIB, c'est l'École Nationale d'Ingénieurs de Brest, et donc c'est une école qui forme les ingénieurs sur plusieurs domaines. Il se trouve que la particularité de cet établissement, c'est que nous avons donc une plateforme de réalité virtuelle, donc qui s'appelle le Centre Européen de Réalité Virtuelle. Donc
CERV en fait. Voilà, CERV.
Ouais. Voilà, Centre de réalité virtuelle. Donc le principe, c'est d'accueillir des chercheurs de différentes disciplines qui souhaitent travailler avec les nouvelles technologies, et en l'occurrence la réalité virtuelle. Donc on a différents domaines, on a des psychologues, on a des historiens comme moi par exemple, et donc le but, c'est de travailler avec ces outils. Et donc là, en l'occurrence, on travaille sur plusieurs projets, donc le Rocher de l'Impératrice forcément, mais on travaille par exemple sur la valorisation du site de Bégarlouède sur l'île de Molène.
Qu'est-ce que c'est ce site ? Qu'est-ce que vous...
Alors c'est un site donc qui a été fouillé pendant une dizaine d'années. Il y avait fondation de deux habitations de l'âge du bronze. Et donc, on a travaillé sur la reconstitution numérique donc de l'habitation, donc avec les archéologues. On s'est basé sur les captations LIDAR des fondations qui avaient été réalisées sur place.
Alors, les LIDAR, c'est du laser aérien, c'est ça ? Enfin, on fait une cartographie
Voilà, on fait une cartographie, en fait, du site, et on s'appuie là-dessus pour pouvoir reconstruire numériquement l'habitation.
Est-ce que vous faites la médiation numérique ? Ça peut aussi servir à des... Enfin, ça sert à valoriser, bien sûr, enfin, à montrer au public, mais ça sert même aussi à conserver. Parfois, c'est ça, il y a des grottes qui ont été entièrement numérisées, enfin, pas par vous, mais...
Le principe, finalement, des nouvelles technologies dans le domaine du patrimoine et de la valorisation du patrimoine, c'est déjà de pouvoir rendre visibles des choses qui ne le sont pas forcément. C'est sûr que quand on va au Rocher de l'Impératrice, c'est difficile de se rendre compte qu'il s'agissait d'un abri de chasse. Pour Bégarlouède, c'est différent, c'est-à-dire que c'est un site qui n'est pas valorisable sur place, puisque c'est directement sur la côte, et donc avec l'érosion marine, c'est compliqué de mettre en place des actions in situ. Donc le principe de travailler avec ces nouvelles technologies, c'est de pouvoir valoriser ces sites quand ce n'est pas possible.
Alors vous êtes historienne, vous l'avez dit, vous êtes docteur en histoire, peut-être pas préhistorienne d'ailleurs à la base.
Non.
Mais alors quel est votre rôle exact en fait ?
Alors moi, déjà, j'ai fait une thèse en histoire, mais avec un volet en humanité numérique. Donc mon travail, c'était principalement de travailler sur l'usage des nouvelles technologies et donc de la réalité virtuelle pour la conservation et la valorisation. Et en fait, moi, je travaille donc dans le cadre de mes missions, en fait, sur finalement trois aspects. Donc l'aspect histoire, l'aspect médiation et l'aspect usage, finalement, des nouvelles technologies. Donc mon travail, c'est d'accompagner les projets et d'essayer de me mettre à la place du public, essayer de comprendre, finalement, quels sont les éléments qu'on pourrait ajouter dans une modélisation pour que les utilisateurs puissent comprendre parfaitement les informations.
Alors, dans le cadre du Rocher de l'Impératrice, qu'est-ce qui est prévu ? Qu'est-ce qu'il est prévu de numériser, de valoriser ?
Alors, il y a plusieurs outils qui sont en cours d'élaboration. Donc, on a travaillé sur plusieurs types d'outils. Donc, déjà, ça va être une modélisation 3D de l'abri. Donc, une modélisation 3D qui sera possible d'utiliser à travers un casque de réalité virtuelle. Donc, l'utilisateur sera vraiment immergé dans l'environnement. Il y a également une application, donc c'est le principe finalement d'une modélisation 3D qui sera visible sur ordinateur. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce type d'outils, on va pouvoir incorporer des ressources pédagogiques, par exemple des schémas, des animations, on pourra mettre en valeur des objets. Donc en fait, c'est un peu le même principe qu'une visite guidée finalement. On accompagne le visiteur et on lui donne finalement des clés de compréhension. Et on a également pour objectif de développer une application en réalité augmentée. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la réalité augmentée, c'est incruster des éléments numériques dans la réalité. Et donc cet outil sera utilisable directement sur place au Rocher de l'Impératrice.
Noémie, le site appartient, si j'ai bonne mémoire, au conseil départemental. C'est toujours le cas.
C'est toujours le cas, oui. Ouais.
Et donc, ils sont sur quelle posture par rapport aux visites ou à des ouvertures éventuelles?
C'est une posture qui est de dire que c'est un, enfin, voilà, si le visiteur permet de découvrir, enfin, la possibilité de découvrir l'histoire archéologique du site, il le fera grâce à son téléphone portable via l'application de réalité augmentée. Mais l'expérience, on va dire, totale et totalement immersive, elle se fera au musée du patrimoine de Plougastel. Donc, il y a vraiment une complémentarité, en fait, entre le site de l'abri sous roche au Rocher de l'Impératrice et puis le musée de Plougastel.
Et justement, le musée de Plougastel, Violaine Offred, qui est avec nous, qui est médiatrice aussi, et qui est avec nous en ligne. Violaine, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez déjà proposé autour du Rocher de l'Impératrice et ce que vous pensez proposer à l'avenir ?
Alors déjà, il y a des visites qui sont organisées durant le mois de fouille, en fait, qui sont organisées alors par le département, enfin plus particulièrement par Nicolas Nozino et son équipe. Nous, on s'occupe de mener en fait les groupes au Rocher et du coup de parler déjà un peu du Rocher en amont. Et puis on fait aussi des circuits sur la presqu'île qui sont assez réguliers, alors qui sont souvent aux abords de ce rocher. Alors même si pour l'instant, pour des raisons de préservation et de sécurité, on n'aborde pas vraiment le site à l'heure actuelle, et on a vraiment hâte de justement l'aborder avec les outils que vous ont décrits mes deux confrères. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que justement, à partir du moment où on aura ces outils, à partir du moment où les fouilles seront, on va dire, plus terminées, que le site sera vraiment, on va dire, poussé à son maximum de recherche, en tout cas, là, on pourra vraiment mettre en place différentes activités, tant que ce soit pour le public, on va dire, plus adulte, que pour le public enfant, notamment avec des sensibilisations autour de l'archéologie, autour du site, de cette période historique qui est souvent peu connue du grand public. Et du coup, c'est l'occasion aussi d'avoir différents supports, alors potentiellement avec des facsimilés de certaines plaquettes, avec justement tout ce rendu numérique qui sera très intéressant et qui est souvent de plus en plus apprécié dans les musées ou dans les espaces culturels, parce que le numérique aujourd'hui fait vraiment partie intégrante en fait de comment on projette des parties de médiation, que ça soit, on va dire, accompagné ou non. Donc c'est vraiment des outils qui vont être clés en fait pour cette nouvelle programmation qui va arriver d'ici quelques années.
Oui,
c'est vraiment une grande chance pour nous.
Et vous avez parlé de facsimilés, c'est parce qu'il faut préciser que les plaquettes avec les orocs, elles ne sont pas au musée du patrimoine, hein, c'est ça.
Pour l'instant, elles sont encore en étude, d'après ce que j'ai cru comprendre lors de nos derniers échanges avec Nicolas Nozino. Et puis surtout, elles vont probablement être dirigées dans un musée qui est vraiment dédié à l'archéologie au vu de l'importance de ces témoignages aussi. Donc nous, on aura des facsimilés, ce qui est déjà énorme, et ce qui va quand même permettre une meilleure approche en fait de ces tablettes graphiques. Et en plus, là, on aura vraiment la chance normalement de les manipuler, ce qui n'est vraiment pas possible avec des objets, on va dire, originaux.
Et qui fabrique ce type de facsimilé, j'imagine, très fidèle?
Alors, il y a différents types d'entreprises. Je vous avoue que là, les devis vont, je pense, être lancés d'ici quelques temps, mais on n'a pas encore de nom à vous donner.
D'accord. Non, mais c'était pour ça. C'est des spécialistes qui fabriquent ça, en fait.
Oui.
C'est ça.
Oui.
Et bon, j'imagine que c'est pas forcément en grès armoricain, là, pour le coup. C'est plutôt en résine ou en.
C'est des résines qui sont utilisées, pour pas que ça s'effrite pour éviter tout ce qui est usure de certains matériaux, parce que vu que c'est des matériaux qui sont censés être manipulés assez fréquemment, bah, du coup, il faut évidemment quelque chose qui colle à la demande, quoi. Donc, mais c'est assez intéressant, et c'est vrai qu'en fait, avec le site du Rocher de l'Impératrice, ça ouvre vraiment de multiples projets, en fait, que ce soit pour le musée, pour les personnes qui habitent Plougastel, et bien sûr, les habitants, de manière générale, de l'Arc de Brest et plus encore, on arrive à avoir un site qui va être vraiment développé sur plusieurs axes et plusieurs types de ressources. Là, quand je parle de ressources, je parle vraiment des facsimilés, du numérique, mais aussi des visites, on va dire, plus classiques, qui sont d'ailleurs là actuellement menées depuis plusieurs années par Nicolas Nodino en été, quoi. Donc, c'est vraiment assez chouette.
Oui, justement, vous parliez des fouilles, donc ça veut dire que les fouilles continuent, c'est ça ? C'est à quelle époque qu'on peut visiter le Rocher de l'Impératrice ?
Alors, je vous avoue que ça dépend du mois qui est préconisé pour les fouilles, et puis là, pendant deux ans, même plus de deux ans, il me semble que ça n'avait pas été le cas. Normalement, c'est censé revenir. Généralement, c'est en juillet, et les visites sont sur réservation. Et ça part extrêmement vite à partir du moment où, dans la presse, les dates sont communiquées. Souvent, le musée une vague, dirons-nous, d'appels qui suit extrêmement rapidement. Et vu que les groupes sont limités de par la taille du site de fouilles, on ne peut pas accueillir une cinquantaine de personnes en une fois. C'est plutôt des plus petits groupes de 15-20 personnes maximum, quoi. Donc, il faut être sur les gardes, sur les articles qui vont sortir, je pense, dans les alentours de juin.
Et il y a combien de visites, en général, dans l'été ?
Il y en a une par semaine.
Et ces fouilles, elles sont prévues jusqu'à quand ?
Alors, mes collègues me contrediront peut-être, mais il me semble que là, le site de fouilles est renouvelé là, pendant au moins 3 ans. Donc, il va y avoir potentiellement des fouilles pendant 3 ans. Après, il faut bien sûr que l'équipe soit d'accord. Qu'il y ait toujours cet accord-là avec le département, les archéologues et puis le musée pour prendre tout ce qui est réservation. Donc ça, c'est vraiment à venir. Je vous avoue que je suis pas sûre et certaine.
Non, mais on sait déjà que voilà.
Mais déjà, il risque d'avoir plusieurs années encore pour ces fouilles, quoi.
Ouais, on a un peu de temps quand même pour voir venir. Oui. Et sinon, en dehors des périodes de fouilles, le site est protégé. Enfin, de quelle manière il est protégé ?
Alors, vous avez le site est entre guillemets rebouché chaque année pour éviter que les couches inférieures soient abîmées ou pillées, parce qu'il y a déjà eu des cas de vol. Et il y a un grillage et une sécurité qui est mise en place aux alentours du site. Donc, comme si vous allez au niveau du site du Rocher de l'Impératrice, vous avez bien sûr le panorama qui est accessible, les sentiers autour, et tout ce qui est fouilles archéologiques, lui, par contre, ce secteur est bien protégé. Par derrière, vous pouvez ne rien voir finalement, ou en tout cas, vous pouvez voir le site d'extérieur, mais on va dire que c'est pas un site où on voit les couches radiographiques qui sont apparentes. Tout est vraiment bien protégé, quoi.
On voit le rocher, quoi. C'est déjà ça.
On voit le rocher, c'est déjà bien.
Après, comme c'est la forêt, on voit pas forcément énormément le paysage autour. C'est vrai que.
Bah, le point de vue sur le Rocher de l'Impératrice, c'est quant à lui super intéressant. C'est vrai que là, c'est quand même un super. Panorama qui s'offre à nous, parce qu'on voit quasiment toute la rade de Brest.
Ah, quand on monte au sommet du rocher,
oui,
c'est ça.
On monte au sommet.
Ouais, d'accord. Je ne sais pas qui va pouvoir me donner ça, mais quel est le calendrier exactement de toutes ces réalisations et de toutes ces valorisations, Noémie ?
Le calendrier est très court, en fait. L'objectif, c'est que tous ces outils de valorisation sur le site du rocher soient prêts pour la saison 2023. Donc ça laisse une petite année, ça laisse une année pour mettre en place l'ensemble de ces outils, à la fois au musée du patrimoine, avec une vidéo, les casques de réalité virtuelle, et puis sur le site, la possibilité de pouvoir télécharger une application numérique pour avoir cette immersion depuis son téléphone portable. Donc voilà, c'est demain.
Ah ouais,
ouais.
Et donc, ça veut dire que vous avez trouvé les financements. Qui finance tout ça ?
C'est, oui, on a les financements pour ça. Donc, c'est l'Europe, en fait, qui finance à 70% ce travail-là. On a déposé un dossier il y a 2 ans qu'on avait déjà pu présenter à l'antenne de Radio Évasion d'ailleurs auparavant. Donc c'est un projet qui nous permet de développer tout à fait ce type d'outils de valorisation des patrimoines, qui traitent de la géologie locale, etc. Donc dans une logique d'interprétation, de compréhension de la grande histoire et l'identité du géoparc qui commence il y a moins 500 millions d'années. Et puis quand on déroule en fait la bobine, il y a aussi tous ces éléments et tous ces sites qui sont aussi intéressants de creuser et puis de rendre compréhensible pour le grand public à la fois sur le site et puis par le biais de nos maisons de géoparc dont le musée de Plougastel fait partie.
Et il y aurait d'autres valorisations numériques comme ça, d'autres sites du géoparc qui pourraient être envisagés, enfin...
Alors il y aurait la possibilité, après une valorisation numérique aussi ambitieuse, c'est ouais. Le seul site pour le moment auprès duquel on propose ce genre d'outils, mais demain on pourrait très bien envisager, pourquoi pas une autre application numérique, de façon à ce que sur différents sites paysagers, par exemple, du territoire, on puisse imaginer à quoi pouvaient ressembler les paysages.
Ouais,
il y a 100
voilà.
millions d'années, il y a 200 millions d'années, il y a quand même ces outils-là qui sont super intéressants. Si on va dans les monts d'Arrée, là, on a toujours envie de regarder, de pouvoir reconstituer cette fameuse grande montagne qu'il y avait autour de la Bretagne il y a 330 millions d'années. Donc, c'est vraiment des sujets qui sont porteurs, qui sont intéressants aussi d'explorer. Et ça, pour le public, pour les visiteurs, oui, ce type d'outils numériques, ça fait toujours l'unanimité. Et pourquoi pas dans le futur, ouais.
Et Marie-Morgane Abivin, donc vous êtes historienne, vous travaillez sur les applications numériques, sur notamment la reconstitution du paysage. Vous êtes combien de chercheurs à travailler
Alors, concernant ces thématiques-là, ça fait, je dirais, une dizaine d'années environ qu'elles sont exploitées au CERV. Mais actuellement, on est principalement deux. Donc moi et un de mes collègues qui est plus un profil informaticien, donc plus développement. Donc finalement, on a des profils qui se combinent bien, donc on fait un bon binôme, je pense. Donc nous, on est sur plusieurs projets donc sur ces thématiques-là. Puis du coup, notre responsable aussi qui enchaîne sur différents projets en même temps. Mais je dirais que voilà, à plein temps, en tout cas, on est deux.
Et pour le site du Rocher de l'Impératrice, comment vous faites concrètement pour vous documenter sur ce que pouvait être le paysage il y a 14 500 ans, enfin...
Alors, pour ce projet-là, pour le Rocher de l'Impératrice, c'est un peu différent de ce que j'avais fait auparavant, notamment sur le projet de Béguerlouëd. En fait, le principe, finalement, du développement de ces applications, c'est de travailler sur la création d'un scénario de médiation. Donc, finalement, ça va être tout le contenu, quelles sont les informations qui sont nécessaires pour comprendre le site et de réfléchir finalement à quelles sont les informations qu'on va pouvoir afficher en plus pour voilà, faciliter la compréhension. Dans le cas justement des scénarios qui ont été mis en place pour le Rocher de l'Impératrice, c'est des thématiques qui sont vraiment spécifiques et je ne suis absolument pas une spécialiste de la sédimentologie, je ne suis pas du tout archéologue spécialiste de la préhistoire, donc je ne peux pas me substituer à des spécialistes.
Donc c'est les archéologues qui vous donnent les infos en fait.
Voilà, ouais, en gros les archéologues vont nous donner la matière et nous on va entre guillemets la mâcher pour qu'on puisse réexploiter les scénarios pour ces applications-là.
Ouais, c'est tout à fait ça, l'image est parfaite. Ils nous digéreront bien sûr. Voilà. Bon, alors il nous reste 3 minutes, Noémie. Je ne sais pas si c'est suffisant pour parler des actualités du Géoparc d'Armorique, autre que le Rocher de l'Impératrice.
Bien sûr, bah, ça fait écho justement à tout le travail qui est en train d'être mené sur le Rocher de l'Impératrice, qu'on est en train de développer ici. C'est un petit peu ce qu'on développe en ce moment sur l'ensemble des sites du Géoparc. Donc il faut savoir qu'il y a 3 maisons du Géoparc, le domaine de Ménesmeur, le musée du patrimoine à Plougastel et puis la maison des minéraux. Et il y a également plus d'une trentaine de sites, soit paysagers ou des sites géologiques ou des sites naturels qui font référence à la géologie. Et donc, on est en train de travailler sur un plan d'interprétation de façon à ce que chaque site qui a été sélectionné puisse être un témoin de la grande histoire du géoparc armorique depuis 500 millions d'années. Donc ça nous renvoie dans le passé. Quels sont les grands événements géologiques qui se sont déroulés depuis cette très lente et très longue sédimentation marine qu'on aperçoit très bien dans les falaises de la presqu'île de Crozon, jusqu'à la création de cette très grande chaîne de montagnes il y a 300 millions d'années, dont les monts d'Arrée sont aussi les grands témoins. Et puis ça fait aussi écho aujourd'hui à quel est le lien entre la pierre, la géologie et puis les usages humains d'aujourd'hui avec le lien avec les carrières, l'usage de la pierre dans le patrimoine bâti, patrimoine architectural. Donc on travaille là-dessus de façon à apporter justement un maximum de contenu pédagogique pour les visiteurs du territoire, que ce soit grâce à soit des panneaux d'interprétation, des applications numériques, grâce à des randonnées pédagogiques sur le sujet. Donc on travaille là-dessus. Et voilà, l'idée, c'est que vraiment, on puisse retracer cette grande histoire et qu'un visiteur qui vient sur le territoire puisse repartir en disant « Mais c'est absolument incroyable ce qui s'est passé ici. » Et puis, on a la chance, ici, avec les falaises de la Presqu'île et les paysages de la rade de Brest ou des Monts d'Arrée, d'avoir quand même une lecture très fine de cette longue histoire. Donc, voilà l'actualité du Géoparc. On est sur le fond plus que tout en ce moment.
Ouais. Et pour l'été, il y aura des nouveautés, très concrètes, tangibles pour les visiteurs à signaler, peut-être
Alors, il y avait déjà le livre Glénat qui était sorti l'année dernière, donc un livre qui fait le listing et la promotion d'une trentaine de randonnées sur le territoire du Géoparc. Et puis, sur certains sites, notamment le site de la montagne Saint-Michel, il y aura la possibilité d'avoir un sentier d'interprétation. Donc, c'est aussi travaillé et porté par le conseil départemental. Il y aura la possibilité d'aller sur différentes randonnées, d'avoir différents outils aussi pédagogiques qui seront développés. Ce sera la même chose également pour le site du Mougo à Comana, où il y a une très belle tourbière à aller voir, un site archéologique. Donc tout ça se met en place et on a un petit univers pédagogique qui est en train de se développer là.
Et la labellisation officielle, est-ce que l'UNESCO a donné des signes?
On est toujours dans l'attente. Ah. On est toujours dans l'attente officielle.
Quand même.
Faudra nous rappeler d'ici quelques mois.
Ouais, c'est pas comme si on n'avait pas travaillé pourtant.
Non, on attend toujours, mais ça ne saurait tarder.
Bon, et ben merci beaucoup à toutes les trois, Violaine et Offret aussi en ligne. Et puis on retrouvera le Géoparc. On va essayer de retrouver le Géoparc avant la fin de la saison. Puis sinon, ça sera pour la saison prochaine, c'est sûr. Merci, à bientôt.
À bientôt.
Bientôt.